Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Soudan, la contestation a accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile lancé après le début d'une répression meurtrière et de reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir afin de trouver une issue à la crise. Tout de suite, en ligne de Khartoum, notre correspondante Patricia Huan.
Trois jours après le lancement du mouvement de désobéissance civile, les meneurs de la contestation ont donc appelé les Soudanais à retourner au travail ce mercredi. Il faut dire qu'une grande partie de la population ici vit au jour le jour. Un jour sans travailler, c'est un jour sans revenu. Et cette grève générale ne pouvait donc pas être tenable très longtemps. Il y a aussi une pression internationale pour la reprise d'un dialogue. C'est d'ailleurs le représentant du premier ministre éthiopien qui tente une médiation entre civils et militaires qui a été le premier à annoncer la nouvelle. Il a hier ajouté que les contestataires avaient accepté de reprendre prochainement les négociations. Ceux-ci semblaient cependant plus réservés sur ce point. Avant de retourner à la table des négociations, ils demandent que les conditions qu'ils ont posées soient remplies, notamment que le Conseil militaire reconnaisse sa responsabilité pour la répression qui a fait plus de 100 morts la semaine dernière. Patricia Huon, Khartoum pour VOA Afrique.
Au Mali, le bilan de la tuerie de dimanche dans un village d'Ogon des environs de Bandiagara, dans le centre du pays, initialement estimé à une centaine de morts, s'établit finalement à 35 morts, dont 24 enfants. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement malien dans un communiqué ce mercredi. Bamako avait fait état lundi d'un bilan provisoire de 95 morts et 19 disparus. Mais lundi soir, le gouverneur de la région de Mopti, qui s'est rendu sur les lieux avec une équipe de la protection civile, avait précisé que le nombre des victimes était de 11 adultes et 24 enfants tués, tous inhumés le jour même de la tuerie. Par ailleurs, 6 personnes ont été interpellées suite à des contrôles de routine, dont 2 par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement malien sans autre précision. Le premier ministre malien Boubou Cissé s'est rendu personnellement hier au village de Sobané, le site du massacre. Le docteur Boubou Cissé promet le désarmement des milices de gré ou de force. Une enquête a été ouverte par le procureur chargé du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme. Mais les Maliens pensent que le gouvernement et ses partenaires internationaux ont échoué dans la protection des personnes et de leurs biens. Notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
De janvier à juin 2019, il y a eu 3 attaques au centre du pays. Toutes ces attaques ont été menées de la même façon, le même mode opératoire. Baba Dakono, chercheur à l'ISS de Dakar.
Ce troisième attaque dans le centre du Mali, pratiquement dans les mêmes conditions que l'attaque qui a été perpétrée dans la localité de Dogo-Sagou, est inexplicable. Inexplicable dans la mesure où, à la suite de l'attaque de Dogo-Sagou, les autorités maliennes et même les acteurs internationaux présents au Mali, notamment la MINUSMA, avaient annoncé un renforcement de l'effet militaire dans cette localité. Donc on ne comprend jusqu'à présent pas comment des assaillants ont pu attaquer tout un village sans qu'il y ait une réaction qui aurait permis de contenir cette attaque.
Pour le politicien Noum Togo, le Mali et ses partenaires n'ont aucune vision en matière de protection des populations et de leurs biens.
Aujourd'hui, c'est qu'au centre du Mali, nous n'avons pas de dispositifs sécuritaires pour sécuriser la population malienne et leurs biens. Des morts sont enregistrées tous les jours, des attaques planifiées au niveau de l'État malien et non pas une politique. Surtout, faire en sorte en cas d'attaque, il n'y a pas une politique pour sécuriser le Mali. Se trouve dans des situations très difficiles, à travers aussi nos partenaires qui doivent sécuriser la population malienne, les Nations Unies, et là-bas aussi, nous sentons réellement qu'il y a des problèmes très sérieux dans notre pays.
Lors de sa visite dans le village meurtri de Sobanda, le premier ministre malien préconise le désarmement de toutes les milices. Docteur Boubou Cissé.
35 morts identifiés. Parmi ces morts-là, il y avait des enfants, 24. Une des premières mesures qui va être prise à partir de maintenant, c'est aller vers le désarmement des milices d'autodéfense. Nous allons chercher à le faire par le dialogue, mais que chacun se le tienne pour information. De gré ou de force, les uns et les autres seront désarmés pour que nous n'assistions plus à cette horreur à laquelle nous avons assisté ces dernières 24 heures.
Le désarmement des milices n'est pas une mince affaire. C'est ce que pense Boubacar Salif Traoré, expert en sécurité à Afrique Globe Conseil.
L'État peut affirmer ce qu'il veut. Le désarmement des milices ne peut pas se passer comme ça. Il y a beaucoup de milices qui échappent au contrôle de l'État. l'État n'est même pas au courant du nombre de milices qui est présente dans cette zone. Et ça, ça pose un autre problème. Aujourd'hui, dans la plupart des zones, les gens s'organisent en groupes d'autodéfense et ça évolue peu à peu vers des milices grâce à l'acquisition assez facilement d'armes.
Boubacar Sidiki Samake, procureur chargé du pool judiciaire spécialisé dans la lutte antiterrorisme.
La force doit rester à la loi. Nous avons déjà ouvert une enquête et nous allons identifier aussi rapidement des personnes comme ce fut le cas à Ouagadougou et des interpellations auront lieu très très vite et nous pensons aussi qu'on pourrait mettre la lumière sur ces événements-là qui encore constituent une atteinte à la dignité humaine.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
On reste en Afrique de l'Ouest. Au Libéria, le président George Weah a invité ses opposants à participer à une table ronde sur l'économie, 4 jours après une manifestation contre sa gestion. Mais dans ses propos hier, le chef de l'État ne s'est pas prononcé sur leur principale doléance. Irénée Amanongbo.
Asseyons-nous et discutons de la manière d'aller de l'avant, a déclaré le président libérien au pouvoir depuis janvier 2018, rappelant au passage qu'il avait hérité d'une économie en lambeaux. George Weah n'a pas directement répondu au collectif des organisateurs de la manifestation du 7 juin. Il a plutôt lancé un appel, entre autres, aux dirigeants de partis, d'associations de la société civile et aux responsables religieux traditionnels, sollicitant leur participation à une table ronde en vue de réfléchir ensemble à une meilleure relance de l'économie nationale. Sans aborder les revendications du Conseil des Patriotes, George Weah a salué le déroulement pacifique et ordonné de la manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Certains citoyens ont exercé leur droit constitutionnel de se réunir avec pour objectif de présenter leurs revendications à leur gouvernement, a-t-il relevé. Il s'est par ailleurs engagé à continuer à garantir leurs droits et libertés.
Ghana, les deux jeunes Canadiennes âgées de 19 et 20 ans kidnappées la semaine dernière à Kumasi, la deuxième ville du pays, ont été libérées ce mercredi matin. C'est ce qu'ont annoncé les autorités ghanéennes. Les deux étudiantes de l'Université technique de Kumasi, à environ 200 km au nord de la capitale Accra, ont été kidnappées, vraisemblablement contre rançon, le 4 juin, en sortant d'un taxi devant le Kumasi Royal Golf Club. La police a précisé qu'elles étaient des volontaires travaillant pour Youth Challenge International, une ONG d'entraide canadienne. La lutte contre l'Ebola en Afrique, un garçon de 5 ans traité en Ouganda pour l'Ebola, constitue le premier cas de cette maladie dans le pays depuis l'apparition de l'épidémie en RDC voisine il y a 10 mois, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Le cas confirmé est celui d'un enfant congolais de 5 ans qui est venu de RDC avec sa famille le 9 juin 2019. L'enfant et sa famille sont entrés en Ouganda en passant par le poste frontière de Bouira et ils ont cherché à recevoir des soins, a écrit l'OMS sur son compte Twitter. Actualité hors d'Afrique maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU à l'initiative du Koweït a adopté hier sa première résolution dédiée aux personnes disparues dans les conflits. Le texte appelle les États membres à établir des bureaux d'information et à recenser les détenus et prisonniers de guerre. Michel Joseph.
Le texte approuvé à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité appelle les parties au conflit armé à prendre toutes les mesures possibles pour rechercher les personnes portées disparues. Le texte leur demande aussi d'enregistrer et recenser les données personnelles de ceux qui sont privés de liberté, dont les prisonniers de guerre, et leur permettre de communiquer avec leurs familles. Devant le Conseil, le président du CICR, Peter Maurer, a évoqué plus de 45 000 disparus en 2018. En Syrie, le CICR est saisi de plus de 10 000 dossiers. Et au Nigeria, il y a 13 000 demandes de recherche de personnes disparues, alors qu'au Yémen, c'est tous les jours. Le Koweït est sensibilisé à la question depuis l'invasion de son pays par l'Irak en août 1990. Depuis, 369 personnes sont toujours portées manquantes. Le CICR note qu'il est plus difficile de faire disparaître des personnes identifiées et recensées et espère que ce texte sera suivi d'effets sur le terrain.
Et vous terminez au Proche-Orient, la défense anti-aérienne de la Syrie a abattu dans la nuit de mardi à mercredi des missiles israéliens dans le sud de la Syrie. C'est ce qu'ont indiqué les médias d'État syriens et aussi l'Observatoire syrien des droits humains qui fait état de frappes ayant visé des positions du Hezbollah libanais. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.